Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Startup Ton Avenir, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs du monde de demain. Aujourd'hui, nous recevons Chris Delepierre. Il est à la tête de Treasurium, une startup sociale qui a pour but de révéler la créativité des enfants à travers les nouvelles technologies. Chris est animé par la volonté d'entreprendre et de créer de nouveaux projets. Il nous parlera de Treasurium, son entreprise, mais aussi du parcours qui l'a amené à devenir un acteur de changement, un change maker. Nous sommes donc ravis de vous inviter à rejoindre notre conversation avec Chris. Bonjour Chris, on est ravis de vous accueillir sur ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui est Chris?
Bonjour à vous, je suis Chris Delepierre, je suis ch'ti. J'ai 31 ans, je suis entrepreneur du changement. Donc j'entreprends pour... le changement, en tout cas accélérer les transformations de nos sociétés, à la fois dans l'entreprise, l'école et même l'église, ça m'arrive aussi. Et donc, je suis attiré par l'innovation, le numérique, le futur, c'est ce qui nous intéresse. Et j'habite à Lille, je suis chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Treasurium, avec une salariée, des associés, depuis maintenant 4 ans. Et j'agis beaucoup dans le domaine de l'éducation créative et numérique.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, le Treasurium ?
Treasurium, donc c'est une start-up sociale. On est donc basé à la Pleine Image à Tourcoing, qui est dans l'industrie créative et numérique. Notre mission, c'est de développer la créativité des enfants et des grands-enfants. Avec notamment l'usage d'outils numériques comme l'impression 3D, la robotique, l'électronique et comment ces technos permettent de donner vie à ces idées, de passer de l'idée au produit ou au logiciel. Et avec une pédagogie récréative, donc comment on apprend en jouant, en étant récréatif, en créant et en étant acteur de son apprentissage. Donc on intervient principalement pour des collectivités, dans des médiathèques par exemple, des centres sociaux, pour des ateliers, de l'animation pour grand public ou pour les enfants, principalement de 6 à 14 ans, et la formation de professionnels, par exemple de professeurs en classe ou d'animateurs, de médiateurs.
C'est souvent des interventions vraiment dans des collectivités. Ouais. Je me permets de rebondir, vous dites start-up sociale. Quelle est la différence pour vous entre une start-up classique, comme on pourrait dire, et justement la start-up sociale?
La finalité n'est pas la même. C'est-à-dire que généralement, une start-up, le but, c'est d'être le plus gros possible avec cette optique soit de revendre, soit de faire maximiser le chiffre d'affaires, en tout cas la croissance. Une entreprise sociale a pour objectif de résoudre un problème de société, donc avec une finalité sociale ou environnementale ou sociétale. Donc nous, par exemple, on a une finalité d'accompagner des publics plus fragiles, de changer. On est dans le domaine de l'éducation, donc par nature aussi, c'est
y a
une finalité sociale de croissance humaine, de comment on peut accompagner les enfants à être acteurs du monde à venir.
J'imagine que vous avez quand même des objectifs de croissance, même si ce n'est pas forcément ceux auxquels on pourrait attendre pour une start-up.
C'est-à-dire c'est mi-ONG, mi-entreprise, donc on est aussi tenu d'avoir une croissance économique.
Oui, bien sûr.
Mais tout en équilibrant le plus possible avec une croissance sociale, en tout cas un impact maximisé sur l'aspect, nous... social.
D'accord.
Et après, juridiquement, ça se vérifie sur des statuts d'entreprise sociale avec fait partie de l'économie sociale et solidaire. On est tenu à avoir une lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer 100% de dividendes, mais 50% doivent être réinvestis dans l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise, donc ceux qui prennent les décisions, doit être participatif et collaboratif. Donc notre salarié est très impliqué dans la prise de décision, par exemple. Et puis la finalité dans notre objet social de l'entreprise est clairement écrite.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Et comment vous est venue cette idée de création d'entreprise?
Oh, c'est un long cheminement, mais c'est vrai que déjà l'envie de créer dans les nouvelles technologies, pour pas faire quelque chose qui existait déjà, ou en tout cas essayer d'innover. Donc nous, c'était plutôt l'impression 3D à la base. Et petit à petit, on cherchait à donner du sens. Donc, comment mettre l'innovation technologique au service de l'innovation sociale. Et donc, voilà, naturellement, le champ de l'éducation est arrivé, on va dire. C'est vrai qu'il y a énormément de potentiel parce qu'il y a peu d'entreprises dans le domaine éducatif. Hein, c'est beaucoup d'associations ou l'éducation nationale ou privée. Mais c'est vrai que comment, voilà, en tant qu'entreprise, on s'ancre dans ce domaine éducation et puis ce qu'on appelle le secteur des EdTech. Donc tout ce qui est éducation et technologie, donc une petite filière avec pas mal de nouvelles startups pour un peu innover, apporter des solutions.
Je connaissais pas du tout ces.
Voilà, les EdTech. Donc je suis présidente de l'association EdTech Hauts-de-France qui fédère l'écosystème régional au service de la formation et de l'éducation tout au long de la vie. Donc ça marche aussi pour les adultes, hein, mais il y a énormément d'innovations à apporter vu que les technologies sont là. On parle de réalité virtuelle, de MOOC, de Fab Lab et autres. Et donc comment on applique ça dans des cadres voilà, de formation et d'apprentissage.
Lors de vos ateliers, vous utilisez quelle pédagogie pour apporter aux enfants du coup votre projet, enfin les différents ateliers qu'ils vont pouvoir réaliser.
Bon, je résumerai ça sur ce qu'on appelle la maker éducation, donc l'éducation par le faire. Donc on s'inspire beaucoup du mouvement des makers, donc de ceux qui font, qui fabriquent, et des Fab Labs, donc des tiers-lieux éducatifs où on va faire ensemble des projets. Donc l'idée de la pédagogie qu'on va développer, c'est de donner des défis à des enfants, donc des challenges créatifs.
Pour les stimuler.
Voilà, pour les stimuler, donc avec aussi de la gamification. Donc comment on rend ludique la pédagogie. Donc, nous, on travaille par exemple sur des badges qu'ils peuvent gagner à la fin, qui donnent de la valeur à ce qu'ils ont appris. Un peu le système des bons points. Et ça, ça motive vraiment beaucoup, notamment les enfants en primaire ou en collège. Et l'idée, voilà, c'est de leur donner un défi, de leur mettre à disposition les outils numériques pour qu'ils puissent être acteurs du numérique et pas juste consommateurs passifs devant les tablettes, écrans. Donc, ils mettent au service ces technologies, au service de leur projet, de stimuler leur créativité. Et nous, on est là plus pour les accompagner, pour leur faciliter, peut-être s'ils ont quelques difficultés, soit techniques, soit créatives, pour les accompagner à fabriquer finalement et donner vie à leurs idées. Donc je dirais que ça va être un mix de plusieurs pédagogies, type Montessori, Freinet. Enfin voilà, on s'inspire d'énormément de choses. On fait notre propre popote, je dirais.
Oui, pour évidemment s'adapter.
Voilà, pour l'adapter aussi selon le contexte des jeunes qu'on a, parce qu'on peut intervenir dans des quartiers prioritaires comme dans des écoles privées. Donc, c'est vrai que les publics, les enfants ne sont pas les mêmes, etc. Ou des publics handicapés.
Oui, j'avais posé la question, quel est votre public en termes d'âge?
Alors, principalement, ça va être de 5 à 15, 16 ans, je dirais.
D'accord.
Et puis des adultes. Beaucoup, soit des parents.
C'est vrai,
en
atelier. Et des adultes, vous faites aussi?
Bah, c'est que ça marche aussi avec les grands enfants et on est tous un peu néophytes par rapport à ces nouvelles technologies. Et donc, voilà, il y a énormément aussi d'accompagnement des professeurs et des pédagogues aussi à culturer à ces nouvelles pratiques pédagogiques.
Mais vous faites comment, par exemple, avec des enfants de 5-6 ans pour arriver justement à les ancrer dans cette nouvelle technologie, tout en... C'est assez compliqué quand même pour un enfant de 5 ans de rester concentré par lui-même. J'imagine que c'est toute une pédagogie qui est différente d'enseigner, pas enseigner, mais je veux dire d'essayer de jouer et d'apprendre à un enfant de 5 ans plutôt qu'un adolescent de 16-17 ans. Bah, comment vous adaptez?
Nous, on aime beaucoup travailler avec les primaires parce qu'ils sont très créatifs justement par rapport à des collèges, des ados, etc. Après, on va adapter les formats forcément. Les ateliers durent moins de 2 heures parce que ça peut arriver que ça dure plus longtemps, mais c'est vrai que forcément, en termes d'attention, on peut être limité au bout d'un certain temps. Après, naturellement, les enfants prennent très vite en main la technique. Donc ça, c'est pas vraiment un souci, soit la programmation créative, soit la modélisation 3D pour l'impression 3D. En tout cas, ils sont très motivés. L'enjeu, ce qui est plus compliqué, sur quoi on travaille beaucoup, c'est comment on les stimule créativement pour leur permettre de développer leurs idées, et de faire un peu de la gestion de projet aussi, parce que c'est un peu ça qu'on apprend, et puis le travail en équipe aussi. Parce que l'enjeu, c'est aussi de développer ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, les soft skills, qui sont
très recommandées en ce moment. Oui.
Résolution de problèmes, créativité, travail en équipe, esprit critique, littératie numérique. Donc tout ça, ça se développe par le faire dans des projets. c'est pas des cours théoriques sur...
Il y a une continuité d'ailleurs pédagogique sur les enfants, je veux dire, où ça va être juste un atelier que vous allez faire une fois et pas forcément revoir ces enfants-là.
Alors ça dépend des cadres d'intervention, ça peut être soit un one-shot, un événement ponctuel, soit dans certaines écoles ou communes, on revient régulièrement et on peut imaginer des stages d'une semaine pendant les vacances ou bien tous les mercredis, de venir régulièrement avec les mêmes enfants travailler des projets de plus long terme.
Donc, vous pouvez apercevoir une évolution
Oui, c'est clair que c'est pas perceptible à court terme, mais à long terme, on a déjà des suivis, notamment des enfants autistes. Je pense à un enfant en particulier où d'année en année, on le voyait progresser. Alors, il n'y avait pas que nous, mais c'est vrai que... voilà,
c'est gratifiant de voir.
C'est gratifiant et c'est vrai, même des professeurs qui, au début, sont très réticents à utiliser du numérique et puis au bout de l'année, ils sont... voilà, ils ont moins peur, ils partagent des photos de la réalisation avec leurs élèves. Donc forcément, ça nous dit que notre travail n'est pas inutile et que voilà, tous les efforts portent au bout d'un moment du fruit. Ouais.
Et du coup, vous avez dit, les enseignants, des fois, ils l'utilisent et vous avez souvent des retours positifs par rapport, ils l'encadrent dans leur pédagogie de différents cours qui peuvent faire des liens avec vos ateliers.
L'enjeu, c'est la transversalité, c'est-à-dire qu'on est dans une approche, on va lier art, technologie, numérique, sciences et mathématiques. Donc le but, c'est vraiment faire du transdisciplinaire. Quoi. C'est que ce n'est pas juste d'un côté des maths, d'un côté du français, d'un côté de l'art, mais dans des projets, on va mixer un peu le tout. Donc l'idée, c'est de développer la coopération aussi entre professeurs pour qu'ils puissent travailler aussi, eux, en équipe pour transmettre aussi la collaboration aux élèves. Donc ça, voilà, ça, progressivement, voilà, ça ne vient pas tout seul. C'est un changement culturel et aussi de système d'organisation au sein des écoles qui ne sont pas forcément conçus pour le travail transdisciplinaire. Oui, en tout cas, ça infuse. Après, c'est un état d'esprit, je dirais. Et petit à petit, les établissements se transforment, les médiathèques ou autres aussi créent des tiers-lieux. Donc voilà, c'est plus propice au monde qui vient, on va dire.
Est-ce que vous avez une augmentation des demandes? Enfin, vous voyez l'évolution entre la période où vous avez commencé et maintenant, en termes de demandes des services publics ou des demandes d'ateliers?
Bon, je dirais que c'est plus lié à notre présence sur le secteur où forcément, il y a des clients qui reviennent, il y a de la fidélisation. Ouais. Ou peut-être c'est une idée dont le temps est venu et donc forcément... les gens sont peut-être plus ouverts à ces nouvelles formes qu'il y a 4-5 ans quand on a commencé. Après, bon, en ce moment, c'est plus complexe avec le Covid où il y a beaucoup moins de demandes vu qu'il y a beaucoup de moins, enfin, il y a peu de prise de risque, on va dire, des collectivités à organiser des événements, forcément, ou des ateliers dans cette période de crise sanitaire. Mais oui, forcément, plus on est connu, plus on est reconnu aussi, on est légitime. En termes de pédagogie, en termes de qualité de service, voilà, petit à petit, c'est du bouche à oreille et puis la chose se fait. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce qu'il y a plus de demandes? Forcément, on est en croissance,
grandi.
Forcément. Ouais.
Vous avez combien de... Enfin, vous embauchez, j'imagine?
Alors, j'ai une salariée qui est un peu un couteau suisse, ingénieur, graphiste et qui anime aussi des ateliers. Et on est 6 associés maintenant. Okay. Et voilà, on fait intervenir nos associés aussi dans l'animation d'ateliers, dans les conceptions de fiches pédagogiques, etc. Donc, on est un petit écosystème là, de 6-7 personnes, on va dire.
Vous étiez tous spécialisés à l'origine dans tout ce qui était innovation et par la suite, vous êtes dans la pédagogie ou vous avez essayé d'avoir des profils un peu mixtes?
Vraiment des profils très atypiques. On a un hacker pédagogique.
Un
hacker, c'est quelqu'un qui est un expert informatique, qui apprend le code aux enfants, notamment.
Et, c'est génial, ça.
Voilà, qui est docteur en histoire et artiste numérique en même temps. Donc, voilà, c'est des profils très hybrides. une coach en créativité, donc plutôt sur l'accompagnement humain et spécialisé sur la stimulation de la créativité. Un maker 3D, donc un étudiant qui a fait Paul, Thomas qui a fait Paul 3D, qui est maintenant spécialiste de la pédagogie et de l'animation d'ateliers.
Donc en fait, vous avez un large panel des innovations que vous pouvez transmettre aux enfants, des ateliers.
Ouais, de la robotique aussi, on a quelqu'un dessus. Donc c'est vrai qu'on a besoin de maîtriser quand même un large panel de technologies, d'être un peu expert dans des technologies très différentes. Et puis le liant, c'est justement l'animation, la pédagogie et le sens qu'on y met par rapport à la finalité de l'entreprise.
D'accord, très bien, merci. Et je voulais savoir, en termes de votre parcours professionnel, j'ai l'impression que vous avez toujours été dans tout ce qui était social. Est-ce que, avant d'entreprendre, votre première envie était vraiment, vous vouliez d'abord travailler dans un milieu tourné vers les autres ou vers l'avenir, ou alors vraiment c'était, je voulais d'abord entreprendre, mais je ne sais pas encore dans quoi, et ensuite est venue l'idée d'entreprendre vers les autres. Qu'est-ce qui est arrivé en premier et pourquoi,
Bah, je voulais créer mon entreprise, c'est vrai, même au lycée. J'ai fait une école qui m'a permis aussi de beaucoup d'entreprendre. C'est l'ITEM à Villeneuve-d'Ascq. Et donc, à partir de ça, je voulais créer mon entreprise. J'étais attiré par les technologies. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être cette question du sens, en tout cas, qui m'animait. Et finalement, c'est qu'on découvre, quand on relit finalement son parcours, que oui, c'était tourné vers les autres, en tout cas c'est une recherche d'impact social, de transmission aussi, mais je ne me suis pas dit que j'allais entreprendre dans l'éducation au début ou spécifiquement vers les autres, mais c'est venu, je dirais, petit à petit où on se découvre aussi soi-même. En tout cas la volonté de faire bouger les choses, ça c'est sûr, d'entreprendre parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'entreprise sont un très fort véhicule de transformation de la société. Notamment les entreprises sociales et les entrepreneurs sociaux. C'était plus cette dynamique qui m'intéressait. Et puis, forcément, animé par des valeurs d'amour, de solidarité, de bienveillance, de confiance en l'avenir. En tout cas, c'est cette espérance, du moins cet optimisme que finalement nos projets vont réussir et que ça va aller dans le bon sens, qui m'anime et qui naturellement m'ont orienté vers des projets sociaux.
Trésorium a été votre première entreprise ou vous en avez...
Alors à la base, avec Thomas, mon associé, on a créé Tridé dans l'impression 3D et notamment un projet aussi tourné vers les autres, notamment au service des aveugles, avec un projet qui s'appelle Toucher pour voir, qui existe toujours et sur lequel on intervient pour des musées, sur de la reproduction d'œuvres d'art, par exemple, pour créer des visites tactiles grâce à l'impression 3D.
C'est sympa, en temps de Covid, pouvoir avoir un visuel digital.
Alors, pas que du virtuel, justement, mais du physique et du tactile pour... pouvoir justement voir les œuvres autrement et créer de l'inclusion au sein là, des musées, mais aussi dans des écoles comme l'Institut des jeunes aveugles à Lille, pour lequel on intervient tous les mercredis depuis maintenant 3-4 ans, et où justement on peut la faire du trésorium pour des publics là, fragiles, en tout cas déficients visuels ou aveugles.
Et actuellement ou dans le futur, vous voudriez encore entreprendre de nouvelles choses ou vous restez sur votre projet que vous êtes actuellement ?
C'est vrai qu'après, moi, je suis un slasher, donc on slash et du moins, j'ai plusieurs activités dans la même semaine. Ouais. Donc, je dirais que oui, j'ai Trésorium qui est mon projet entrepreneurial principal, je dirais. Mais après, j'ai créé la EdTech Hauts-de-France avec d'autres. Là, je vais lancer Badgeons les Hauts-de-France sur une dynamique autour des open badges et des badges numériques ouverts autour de la reconnaissance des talents. Donc ça, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est plutôt associative, mais en tout cas, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat aussi. J'ai créé le Comptoir de Cana, qui est un bar associatif et solidaire sur l'île, qui est un tiers-lieu d'église à Lille. Et donc là aussi, il y a énormément d'enjeux d'entrepreneuriat aussi dans le domaine ecclésial, je dirais, et spirituel. Je dirais que oui, je me cantonne pas qu'à un seul projet. Et puis, je dirais que c'est de pire en pire avec le temps, du moins. Après, j'ai la chance d'être jeune, entre guillemets, et de ne pas avoir d'enfants encore à charge. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les temps de la vie feront que je devrais certainement plus me poser.
Vous êtes stimulé de faire plein de projets et d'être un peu sur tous les fronts.
Mais c'est vrai que quand on est étudiant ou on commence sa vie pro, on a... une liberté supplémentaire qui nous pousse à voilà, avoir du temps qu'on peut allouer à l'entrepreneuriat.
Du temps, et généralement aussi, on a un peu l'argent de se dire on n'a pas une famille à nourrir, on n'a pas forcément.
On a certainement moins de besoins. Alors après, c'est des choix de vie, hein, clairement.
Bien sûr, bien sûr, mais j'imagine qu'à 18 ans, on n'a pas exactement les mêmes charges financières qu'on peut avoir à 35 ans.
Ah ouais,
donc c'est le
clair
moment
que...
d'entreprendre si on a des idées.
Pour moi, oui, c'est l'un des meilleurs moments, vu qu'on n'est pas enfermé dans un confort qui nous fait qu'on doit prendre plus de risques quand on est... voilà, on a une famille à charge, donc c'est vrai que c'est un peu un temps idéal, même si c'est possible d'entreprendre à tout âge. Mais c'est vrai que quand on n'a rien à perdre, entre guillemets, et tout à gagner, c'est le bon moment pour se lancer. Il suffit d'oser, quoi.
Oui, quel conseil, d'ailleurs, vous donneriez à un étudiant qui aimerait se lancer, mais qui n'ose pas parce qu'il ne sait pas forcément par où commencer, ou il a pas forcément confiance en ses idées, ou juste quel conseil vous lui donneriez ?
Oh, c'est d'oser tout simplement, enfin, c'est avoir l'audace d'entreprendre, de faire déjà le choix, de se dire, voilà, je choisis d'entreprendre. Et de, alors après, voilà, il faut certainement se donner une durée, se dire, voilà, je vais tester pendant un an, je vais allouer tel moyen à mon projet, ou trouver mon propre business model personnel aussi, parce qu'il faut aussi vivre d'à côté. Donc ça peut être vivre chez ses parents, ça peut être faire des choix de vie, en tout cas réduire son train de vie aussi. Mais dire, voilà, je choisis d'entreprendre, je fais ce choix conscient, je me donne autant de temps et voilà, je teste. Et c'est en faisant que, de toute manière... voilà, et en faisant un peu ce choix conscient, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément d'opportunités, en fait, qui s'ouvrent inconsciemment, finalement. En tout cas, on détecte des nouvelles possibilités, on rencontre énormément de gens, on apprend aussi beaucoup, et sur soi et puis sur son domaine. Et donc, au final, je dirais qu'on mature et qu'on ne pas avoir peur, en tout cas, c'est, voilà, on devient un peu philosophe, aussi, au bout d'un moment.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une école de l'humilité, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que...
On se trompe,
notre idée initiale n'est généralement pas la meilleure ou la bonne. Il faut se remettre en question énormément. On a beaucoup nous pivoté. On est passé de la 3D à l'éducation, à d'autres technologies, d'autres publics, etc. Donc il faut, au bout d'un moment, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, abandonner ce qui ne marche pas. Donc il y a des renoncements. Mm-hmm. Mais c'est toujours pour un meilleur, dans une dynamique de croissance qui fait que quand on relit son histoire, voilà, on se dit voilà, c'était pas inutile et on a appris énormément de choses. Mais voilà, encore faut-il faire ce choix et avoir cette audace de se lancer, quoi. Quel que soit le domaine, quelle que soit sa situation. Mais c'est un peu mon conseil, de dire au pire ça marche, quoi.
Quel moment, en tant qu'entrepreneur, vous avez été le plus fier de vous ? Vous vous êtes dit vraiment là, vraiment une fierté, quel est votre moment ?
Bon, il y en a, je dirais qu'il y en a plein, entre guillemets, mais c'est surtout, je pense, quand on relit un peu là, les 4 ans passés, dire que voilà, on a une salariée quand même. Ouais. Ça, c'est un gros enjeu d'embaucher. Ouais. Là, c'est Marie qui est passée de stagiaire à contrat pro, puis embauchée en CDI, et qu'on accompagne aussi pour qu'elle prenne plus de responsabilités. Donc, c'est de voir un peu la croissance des personnes avec qui on côtoie dans l'entreprise et avec qui on travaille, pour dire, au bout d'un moment, c'est vrai que avoir participé, en tout cas avoir permis cela, et de voir un peu la communauté humaine qui s'est constituée autour du projet, et de voir qu'on a aussi un impact auprès des enfants, et que le projet tourne, même si ça pourrait toujours mieux marcher, et que le but, c'est de ne pas s'arrêter là. Déjà, de relire cette histoire, forcément, ça nous rend plutôt fiers à la mesure du travail qu'on a fourni. Parce que c'est beaucoup d'engagement, c'est quelques sacrifices, ou en tout cas des choix. Oui. Qui fait que nos efforts sont récompensés par nos progrès. Et c'est vrai qu'il est bon, au bout d'un moment, de se poser, de regarder le chemin parcours, et c'est ça qui nous rend fiers, je pense.
Très bien, merci.
D'accord, merci. Là, on a une petite question signature qu'on va poser par rapport à notre semaine du campus créatif. D'après votre imagination, comment voyez-vous le monde de demain ? Pas forcément au niveau professionnel, mais personnel, ou alors... c'est vraiment large, c'est comme vous le voyez, en fait.
C'est un exercice très intéressant. Je vous conseille tous de faire ce que j'appelle la prospective fiction, c'est-à-dire comment on essaye d'écrire des scénarios de futur souhaitable. Mm-hmm. Donc moi, mon futur souhaitable, c'est... voilà, si je devais me projeter à 2040, par exemple, c'est qu'on ait tous un revenu universel, qu'on puisse justement entreprendre sans forcément avoir un impératif économique derrière, de pouvoir se lever le matin, d'aller dans une coopérative, soit de savoir, soit près de chez soi d'un Fab Lab pour fabriquer ses objets, soit cultiver son potager... j'imagine quelque chose de très local, beaucoup plus aussi dans la nature, donc la végétalisation des villes, notamment, donc plus en lien avec le vivant et l'écologie, forcément. Comment la techno peut aussi nous conseiller des actions qui nous correspondent, des contenus d'apprentissage selon nos intérêts. On peut retrouver plus de fraternité, de communauté humaine.
Moins d'individualisme.
En tout cas, une société qui est organisée de façon à ce que ça soit permis, parce que je pense que les individus sont naturellement portés sur ça, sauf que le système économique et notre système tel qu'il est conçu et organisé actuellement, limite, on va dire, ces interactions, cette fraternité, etc. Donc, je dirais beaucoup plus de démocratie participative, ou en tout cas, comment on peut facilement prendre part à la vie de la cité et, d'un point de vue politique, être beaucoup plus acteur. Mm-hmm. Donc, comment, finalement, toutes les actions qui peuvent contribuer à ce bien commun et surtout cette autonomie et cette prise de pouvoir de la personne, quoi. Donc c'est certainement assez flou ce que je vous conseillerais là, si vous voulez avoir une vision, c'est de regarder du côté de l'Institut des Futurs Souhaitables. Mm-hmm. C'est une communauté de conspirateurs positifs qui imaginent l'avenir à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Et donc, il y a cet esprit d'Uchronie, d'essayer d'imaginer l'avenir et de poser ces scénarios de futur souhaitables, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un grand récit pour pouvoir nous projeter, finalement.
Bien
et
sûr.
C'est finalement, l'avenir est moins à découvrir qu'à inventer. Et aussi, c'est par à partir de cette vision souhaitable et de notre action d'entrepreneurial au présent, mm-hmm. on va pouvoir se rapprocher de cette vision d'avenir, quoi. Donc c'est comme ça, un peu, si je devais me projeter...
Écoutez, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation sur ce podcast. Et à bientôt.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode avec Chris. Ce podcast a été enregistré à l'occasion de la Semaine de la Créativité, organisée par le Campus Créatif de l'Université catholique de Lille. Tout au long de cette semaine, nous vous proposerons des créations digitales. Pour suivre ces événements, je vous donne rendez-vous sur leur site internet campuscreatifunifcatholif.fr et sur leur compte Instagram campuscreatif. À bientôt!